Donc, je remercie ma grande sœur Dominique pour m'avoir donné l'opportunité de partager une expérience, une ambition à laquelle nous croyons en tant que jeunes Maliens. Et quand mon collègue parle de capital humain, et je vais partager avec vous comment nous avons essayé de développer ce capital humain. Et c'est ce que j'appelle la masse critique. Et c'est ce qui signe un développement responsable en matière de santé dans le cadre de la coopération internationale. Et l'histoire de la masse critique en Afrique est essentielle. Comment on pourrait former des jeunes Maliens avec une compétence, les ramener dans leur pays et les faire travailler dans leur pays. C'est ça le plus important. Et en tant que biologiste, nous croyons à cette masse critique de compétences en image à ce qui est connu actuellement en microbiologie, qui est le quorum sensing. Nous savons maintenant qu'une bactérie, pour qu'elle ait une multiplication exponentielle, il faut une certaine masse critique pour faire la pathogénicité. Et c'est la même chose, les ressources humaines en Afrique, c'est la compétence, c'est le retour dans le pays et c'est s'épanouir dans son propre pays. Nous avons deux expériences dans le domaine du paludisme, avec le Malaria Research and Training Center et une jeune équipe de médecins de campagne formée en ville, travaille sur le terrain depuis 20 ans. Donc, je suis ici de l'École nationale de médecine et de pharmacie de Bamako, où j'ai fait ma formation, qui a été créée en 68 dans la dynamique de développement des capacités africaines pour faire face aux problèmes de soins des années 68 par les professeurs Pierre Penn et les professeurs Jean Tlini et le gouvernement du Mali. Et ces deux professeurs ont envoyé ce que j'appelle les trois mousquetaires français, le professeur Duflo, le professeur Rank et le professeur Balik. Et je pense que cette race de coopérants a disparu actuellement, et c'est là où j'interpelle encore l'opinion. Et ce que je vais dire, ils ne sont pas au courant. C'est pour ça que je me permets, bien que j'ai perdu mes deux professeurs, au moins le professeur Balik est là, le professeur Gentilny est là. C'est que nous avons observé depuis cette période, nous de la génération F1, le développement de la coopération sanitaire en matière de santé, que ce soit en française, américaine, britannique ou allemande avec qui nous travaillons, c'est que cette première race de coopérants est venue dans nos universités et n'avait pas un plan de carrière en Afrique. Elle avait une ambition de susciter l'intérêt et de sélectionner des jeunes talents africains, les donner la capacitation dont on parle et de les faire fructifier dans le pays. Et je crois que c'est ça un peu la clé du problème. Et fort de cette formation que nous avons réussie, et je dis que le développement socio-sanitaire, c'est la capacité d'une nation à s'adapter à tous ces processus, parce qu'en fait, c'est un problème de coévolution. On parle de mondialisation, nous sommes tous des homo sapiens, c'est que la capacité d'adaptation va faire la différence. Et il y aura des modifications écologiques, il y aura des connaissances scientifiques qui vont changer et technologiques, mais seules les sociétés créatives et douées donc d'une capacité de penser autrement qui feront la différence, d'où la notion de masse critique. Et ceci est essentiel. Et c'est possible. Et donc, quand le département d'épidémiologie a été créé au sein de la fac de médecine, vous voyez, vers les années 68, aujourd'hui, nous avons réuni un certain nombre de réseaux au niveau international en créant, vers les années 92, la première génération des jeunes formés par nos patrons du Nord, avec l'accompagnement, sans couper le cordon ombilical, le Malaria Research and Training Center, qui est un centre de formation et de recherche sur le paludisme, et qui regroupe aujourd'hui une cinquantaine de PhD, médecins, pharmaciens et biologistes, formés en France, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, tous de retour dans leur pays, et qui ont un plan de carrière, ce qui est exceptionnel. Donc, avec la création par le gouvernement français et le gouvernement du Mali, et nous avons, à la demande du professeur Rang qui nous a dit, tel que je vous vois, pour avoir l'argent nécessaire pour vous épanouir dans votre pays, il faut connaître le système américain. Et il nous a envoyé, vous vous rendez compte, vers les années 90, aux États-Unis, pour découvrir le système français. D'où notre inscription aux différents cours de John Hopkins, pour comprendre le système français et impacter dans l'accès aux grants aux États-Unis. Et ceci a révolutionné beaucoup de choses avec l'accompagnement de l'OMS pour la formation de nos PhD. Donc nous avons pu avoir envoyé des francophones pour la première fois dans les universités américaines et ils ont eu un succès phénoménal. Et l'exemple le plus frappant, c'est que quand le premier Malien a soutenu sa thèse à l'Université de Maryland avec un premier papier dans New England Journal of Medicine, ceci a permis de dire aux Américains c'est que les Maliens ont une bonne tête, donc on peut les recevoir. Et ceci est important, le fait que ce premier ait réussi. Donc nous capitalisons ce réseau de partenaires et aujourd'hui nous avons de nouveaux partenaires qui vont accompagner le Mali nouveau après les tsunamis que nous avons subis en 2012, l'AFD et l'IRD qui sont en train de nous accompagner récemment pour cette équipe. Donc voilà comment nous avons bâti cette masse critique et nous les avons maintenus dans le pays. Quand le professeur Ferenc donc, a fondé le département en 1976, après l'école de médecine, il a sélectionné un certain nombre de jeunes Maliens, à qui donc il a donné des compétences sur le terrain, mais aussi en France pour aller faire le doctorat. Et quand nous sommes venus, nous avons formé d'autres générations sur le système PCR que nous utilisons. C'est quoi le système PCR dans la formation? C'est que quand un professeur forme une première génération environ de 5 Maliens, vous êtes tenu de faire la même chose en recrutant d'autres talents et de multiplier, et c'est ça la PCR. Et nous sommes à peu près à notre 5e génération, et aujourd'hui, au moment où je vous parle, j'ai 12 PhD qui sont en formation, soit en France, soit en Grande-Bretagne, soit en Suède, soit aux États-Unis, et ils vont rentrer au pays. Donc cette formation par PCR nécessite la responsabilisation et de l'accompagnement d'une génération à l'autre. Et c'est ce qui a fait que la première génération du professeur Rank ont occupé des postes importants au Mali, aussi au niveau international, et l'ensemble des générations qui sont venues ont un plan de carrière au niveau de l'université actuellement. Et pour pouvoir maintenir une masse critique, il faut être focus, il faut être ciblé. Nous nous sommes dit, la parasitologie est vaste. Quel est le parasite qui impacte sur l'état de santé de nos populations avec l'impact sur les EMD 4, 5 et 6, c'est le plasmodium. Et que si nous enlevons le poids du plasmodium sur le développement intellectuel de nos enfants, nous espérons l'éliminer et atteindre d'ici quelques années que ces deux enfants grandissent dans ce monde sans plasmodium et contribuent à la créativité, parce que nous savons sur le plan physiopathologique que tout enfant exposé à la multiplication du plasmodium avant l'âge de 5 ans a des séquelles et quelques neurones qui sont lésés et il y a une atteinte à la créativité. Et ceci est tout à fait en adéquation avec la coévolution que nous avons avec ce plasmodium depuis 6 à 8 000 ans. Et c'est la première fois que vous voyez un parasite ou une bactérie qui infecte le placenta et qui adhère à une molécule spécifique du placenta. Donc l'enfant est exposé à l'antigène parasitaire depuis sa conception et ceci a un impact sur son développement biologique et nous savons maintenant sur son développement intellectuel. Donc ça, il faut l'enlever du poids. Et nous avons démontré avec un étudiant français de la Sorbonne, un mathématicien qui est né en Côte d'Ivoire, mais qui est français. Et il est venu faire 2 années avec nous pour mesurer, en plus de la mortalité, qui est un indicateur qu'on connaissait, quel est l'impact sur tous ces indicateurs de créativité et de développement sur le plasmodium. Et il démontre dans sa thèse que le fait de porter le plasmodium, même si on n'est pas malade, a un impact sur l'anémie pendant la grossesse, l'absentéisme scolaire, et que les enfants à qui nous avons enlevé donc, le parasite ont vu, d'un mois à l'autre, augmenter la moyenne scolaire. Nous avons travaillé avec les enseignants et l'année prochaine, ils étaient beaucoup plus productifs. Donc, ceci montre que le plasmodium est un facteur de sous-développement par l'empêchement de la créativité. Et il y a beaucoup de stratégies au niveau mondial. Et ces stratégies sont générales. Nous nous sommes dit, au niveau du Malaria Research and Transmission Center, est-ce qu'on pourrait cibler cette zone de transmission saisonnière en démontrant par des études de cohorte que vous voyez la saisonnalité de la pluviométrie à un pic et la transmission du paludisme est un peu décalée et elle pique autour des mois de septembre, octobre, novembre, au moins dans les pays sahéliens et que 80% de la mortalité se concentre sur 3 mois. Nous nous sommes dit, on peut imaginer une stratégie pour impacter sur cette transmission. Et c'est ce qui a été fait, un des exemples. Et nous avons développé donc une stratégie que nous avons appelée le seasonal malaria chemoprevention par des essais cliniques de phase 2 et de phase 3 ciblés sur cette transmissibilité où, avec une combinaison thérapeutique, nous démontrons que quand vous donnez 3 doses de ces médicaments aux enfants en un mois, vous réduisez de 80% la mortalité. C'est-à-dire, en une année, nous démontrons qu'un pays comme le Mali peut arrêter 8 000 à 12 000 décès dus au paludisme chaque année, de moins de 5 ans, et que tous les pays de la CEDEAO réunis réduisent de 100 000 décès chaque année. Et ces résultats publiés dans des journaux comme The Lancet, Plot Medicines, nous l'avons amené à l'OMS en mars 2011, avec le consortium que nous avons créé, nos collègues sénégalais, gambiens, burkinabés et la London School, pour présenter ces résultats qui étaient inattendus au niveau des experts de l'OMS. Et c'est la première fois que les experts, quand ils ont écouté une équipe de recherche, ont adopté science tenante une stratégie et ils ont fait une recommandation en mars 2012 pour toute l'Afrique sahélienne. Voilà un impact d'un résultat qui est imaginé, testé, publié et présenté à l'OMS et qui cible notre zone. Et voilà un peu quelques résultats saillants publiés dans Plot Medicine. Ce sont donc ces jeunes qui ont fait des masters et qui font des PhD sur ce genre de travaux qui publient et qui impactent sur des décisions de l'OMS. Vous voyez, tous ces indicateurs sont impactés à hauteur de souhait. Aucun vaccin antipaludique ne le fait. Donc nous disons à l'OMS, il faudrait profiter de l'efficacité de ces médicaments et implémenter ces stratégies, et c'est ce qui est en train de se faire actuellement. Et nous avons réuni les 6 ministres des pays sahéliens à Nouakchott avec tous les partenres en mars récemment en 2013, et ils ont un plan stratégique, et s'ils l'implémentent, ils pourront diminuer 100 000 décès dus au paludisme chaque année, et c'est la seule manière d'accélérer l'atteinte des OMD6, sinon aucun de nos pays sahéliens ne sera au rendez-vous. Donc, on a estimé les zones éligibles pour cette stratégie. Vous voyez, c'est cette bande de la méningite que Lapessonnier avait décrite. Et c'est cette bande qui est éligible à cette stratégie, pas le reste de l'Afrique. Il y a une autre bande en Afrique australe. Et je vous dirai pourquoi elle n'a pas été retenue par l'OMS. Parce que l'implémentation de la stratégie nécessite l'efficacité de la combinaison que nous utilisons, la mondiaquine et la sulfadoxine pyrimétamine. Avec les outils moléculaires que nous avons développés, on peut faire maintenant chaque année une cartographie des mutations ponctuelles qui sont responsables de la résistance à ces médicaments. Et les données récentes montrent que l'Afrique australe porte un taux de mutation si élevé que ces médicaments ne sont pas efficaces. Donc, il faudrait trouver d'autres régimes. Donc, pour toute la bande sahélienne, avec le suivi continu, ces médicaments sont encore efficaces. Et nous disons au ministre que nous avons 5 années d'opportunité quand vous faites une pression médicamenteuse. Et en 5 années, si vous réduisez 500 000 décès, on est déjà à l'objectif des OMD. Voilà donc. Et l'estimation qui a été faite par les économistes de la London School montre que pour la zone sahélienne, vous voyez, on peut descendre jusqu'à 101 000 décès chaque année. Et des partenaires aussi pragmatiques que Médecins Sans Frontières ont immédiatement implémenté, avant même la sortie du document. Et au moment où je vous parle, au Mali, ils ont implémenté dans un district. En un mois, ils ont vu disparaître l'hospitalisation due au palud. C'est excessivement spectaculaire. Le Sénégal l'a implémenté et c'est le premier pays qui montre actuellement un taux de réduction de l'indice plasmodique de 1% dans certaines zones du Sénégal. Ils cherchent le paludisme, ils ne le trouvent pas. Et ils sont en train d'aller de la préélimination vers l'élimination. Et donc, tout ça, avec cette capacité de former des jeunes maliens, les jeunes médecins qui ont été exposés donc à cette capacité d'avoir une compétence, une autonomie fonctionnelle et de penser à des solutions. Et quand il y a eu l'ajustement structurel au Mali et que le gouvernement n'utilisait pas, les professeurs de l'école de médecine, guidés par le professeur Balik ici présent, et l'ONG Santé Sud, ont, avec des jeunes médecins entrepreneurs, créé une nouvelle race de médecins que nous avons appelé les médecins de campagne. Ils sont aujourd'hui au nombre de à peu près 300, 150 appuyés par le groupe Santé Sud et 150 par d'autres partenaires et le gouvernement, qui cadre toute la République du Mali avec une responsabilité de 3 millions d'habitants. Et ils implémentent donc les stratégies de santé publique et ce sont des entrepreneurs et qui vivent de leur entreprise. Et c'est ça le plus important. Et ils sont en bourse. Et nous les formons dans les techniques de dépistage et de la documentation du paludisme. Vous voyez ça, ils viennent au MRT ici pour se former. Et ils repartent chacun avec un kit, tout content. Et ils nous récoltent des données dans tout le Mali, ce qui nous permet d'avoir gratuitement des échantillons de parasites. Et nous faisons la récolte d'ADN et chaque année, nous donnons une cartographie des résistances moléculaires en utilisant ces réseaux de médecins de campagne. Voilà encore une coopération entre des structures. Et deuxième idée qui a permis de cibler une stratégie pour les zones du Sahel, c'est le traitement préventif pour la femme enceinte. Quand nos collègues du CDC l'ont développé au Malawi en 1998, nous l'avons repris en 2000 dans le Sahel et publié dans Journal of Infectious Diseases. Et l'OMS en a fait la recommandation pour tous les pays africains. Mais nous n'avions pas été satisfaits de l'efficacité de 2 doses et nous avons eu l'hypothèse que probablement 3 doses, elle est mieux. Et nous l'avons testé et publié dans GID en 2011 et récemment dans JAMA en 2013. Et nous l'avons présenté, donc les 2 PhD qui ont travaillé là-dessus, à l'OMS. Je ne suis pas allé. Et l'OMS vient d'adopter cette stratégie pour passer à 3 doses de SP chez les femmes enceintes. Donc, les recherches africaines peuvent impacter. Et avec cette méta-analyse que le docteur Kayantao, qui fait son PhD entre moi et la Liverpool, vient de faire, il vient de publier ça dans JAMA, donc des évidences scientifiques, vous voyez que l'ensemble des indicateurs du paludisme liés à la grossesse sont impactés positivement avec les 3 doses sans effet secondaire. D'ailleurs, celle qui a fait la première thèse en 2011 sur cette stratégie est issue du ministère de la Santé. Donc, nous travaillons avec les gens du ministère de la Santé et aujourd'hui, elle est la directrice nationale de la Santé parce qu'elle a une capacité de penser autrement et elle a été formée par le professeur Brucker ici présent. Je l'ai inscrite en DEH lui et en thèse avec le professeur Martin Danis et c'est l'une des premières femmes ayant un PhD en santé publique. Donc, avec tous ces résultats, nous avons approché les partenaires quand ils avaient créé le Malaria Eradication Initiative Agenda, pour leur proposer une approche ouest-africaine de l'élimination du paludisme en créant le WAMI, qui est le West African Malaria Initiative, parce que nous avions reçu un certain nombre de prix, et parmi lesquels il y avait le prix du prince d'Astura, d'Espagne, et nous lui avons présenté ce projet. Et avec la fondation Bill Gates, ils ont mis ensemble un consortium autour donc des universités du Mali, d'Espagne, du Ghana, pour essayer de créer une malaria school, c'est-à-dire une école de malariologie africaine, qui va penser aux solutions basées sur les évidences régionales. Et ceci est en train de mettre en place. Et ça a été arrêté simplement par les problèmes politiques du Mali. Mais nous pensons que dans le Mali Nouveau 2014, nous allons redynamiser la malaria school, où l'ensemble de la formation qui adresse la problématique du paludisme, master, postdoctoral, PhD, va être capitalisé dans cette école où nous voulons que francophones et africaines viennent ensemble dans la même école pour pouvoir parler le même langage, communiquer. Nous allons envoyer en stage les anglophones chez les francophones et vice-versa pour créer une masse critique d'Africains capables de dialoguer et faire solution ensemble. Donc, cette rencontre ministérielle montre qu'à partir d'une évidence des scientifiques, on a pu changer des stratégies de l'OMS et impliquer l'ensemble des partenaires au développement et réunir des ministres pour qu'ils aient un plan d'action de 3 ans pour éliminer le paludisme. Et notre rêve, c'est un jour trouver donc dans chaque village pratiquement du Mali, ou les gros villages, un médecin qui sourit avec une femme, à une jeune fille qui sera la prochaine femme du Mali de demain. Et que nous pensons qu'avec 52% de la population du Mali, le fait d'amener une masse critique de femmes à la recherche, c'est ce que nous faisons actuellement. Les 8 sur 12 PhD que j'ai actuellement, ce sont des jeunes filles et qui sont des brillantes. Et c'est elles, je pense, qui vont porter plus tard l'avenir de ce pays en apportant les solutions par leur créativité et leurs compétences sans complexe. Je vous remercie.